Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Fanny Richer, Catherine Donnet, Virginie Leduo et Marie Vidal, réalisée par Liscom, accompagnée ce soir à la prise de son d'Emmanuel Morse-Zincan. Il n'est pas forcément acteur, pas nécessairement rentier, ni à la tête d'une grande multinationale. Il n'est pas forcément non plus à la retraite, ni même d'ailleurs en âge de l'apprendre. Alors bien sûr, il n'est pas parfait, il lui arrive tout de même de coller à certains clichés. Il est même plutôt attiré en premier lieu par la Suisse, mais pas seulement. La Belgique ou le Royaume-Uni font aussi partie de ses destinations de prédilection. En tout cas, il fait rarement marche arrière. Vous le voyez peut-être se dessiner ce visage de l'exilé fiscal, insaisissable faute de chiffres régulièrement accessibles. Les derniers en date sont parus il y a 2 semaines dans les pages du journal Les Échos et nous révèlent qu'en 3 ans, le nombre d'expatriés fiscaux a augmenté de 40% entre 2011 et 2013, des contribuables qui gagnent en moyenne plus de 260 000 euros par an. Insaisissable aussi car en proie à une confusion régulière avec l'évadé fiscal qui lui ne déclare pas ses placements d'argent à l'étranger. Alors maintenant qu'on les connaît, ces chiffres, cherchons à relativiser. Sommes-nous le pays européen qui compte le plus grand nombre d'expatriés fiscaux? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que selon un article de l'Agence économique et financière de Genève, l'Europe de l'Ouest reste la région du monde où les taxes sur les revenus sont les plus lourdes. Et la France reste en bonne place dans ce classement, il y en a au moins un. Le poids des prélèvements obligatoires représente 44% de son PIB, 10 points de plus que dans les autres pays de l'OCDE. Alors l'exil fiscal est-il en train de devenir une exception française? Serait-ce le seul fait de notre politique fiscale? C'est notre sujet du jour. Et ils sont 3 pour en parler ce soir. Manon Laporte, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate fiscaliste. Vous avez publié en 2013 un ouvrage intitulé « Exilés fiscaux, tabous, fantasmes et vérités aux éditions du moment ». Nous allons en parler au cours de l'émission. Avec vous pour discuter, Hélène Conway-Mouret, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice socialiste des Français établis hors de France. Bienvenue. Et notre troisième invité sera avec nous depuis les studios Corse de France Bleu Frequenza Mora. Il s'agit de Philippe Crevel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et vous co-dirigez le Cercle de l'épargne. Alors, les interrogations qui ont donné lieu à cette émission sont nées de ces chiffres de Bercy que se sont procurés nos confrères du journal Les Échos, selon lequel le nombre d'exilés fiscaux français aurait triplé en 3 ans, entre 2010 et 2013. Alors Manon Laporte, vous aviez été auditionnée dans le cadre d'un rapport de l'Assemblée nationale sur l'exil des forces vives rendu public en 2013, et vous insistez surtout sur le fait que le phénomène d'exil fiscal n'est pas nouveau et qu'il n'a pas fallu attendre l'année 2010-2011 pour l'observer. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour que les données que l'on a maintenant à disposition nous donnent à voir cette augmentation ?
Alors, d'abord, effectivement, le phénomène n'est pas nouveau puisqu'on rapportait déjà des chiffres importants en 81 et puis ensuite en 95 et puis en 2011, dès 2010-2011 et surtout en 2012, ça a beaucoup augmenté. Pourquoi ce phénomène s'est accéléré ? Parce qu'il y a une espèce de démocratisation des exilés fiscaux. Et donc, si vous voulez, on ne parle plus de gens qui ont des grandes fortunes, des gens très aisés. On parle de profession libérale, on parle de retraités. Et puis, on parle aussi de pays d'accueil qui, finalement, ont mis des choses plus accessibles, des régimes dérogatoires d'impôts pour certaines autres catégories de Français.
Et qui sont donc devenus plus attractifs pour les jeunes entrepreneurs français, on va y venir dans un instant. Cette date de 2011, ça correspond aussi à un changement dans la politique fiscale du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il avait au début le désir de supprimer l'ISF et le bouclier fiscal, ce plafonnement de l'imposition. Est-ce que ces chiffres révèlent aussi les lacunes d'une politique fiscale française changeant? Je parle de celle de Nicolas Sarkozy, mais aussi des changements politiques intervenus dans la politique fiscale depuis le début du quinquennat de François Hollande.
Oui, non seulement elle est excessivement changeante, mais il y a des dispositions qui ne s'appliquaient pas et qui s'appliquent d'ores et déjà. C'est une absence de constance de la politique fiscale, des effets rétroactifs des lois de finances et donc une multiplicité et une complexité des normes qui existent en droit français et en particulier en droit fiscal.
Philippe Crevel, sur cette question, est-ce que ces chiffres que l'on a maintenant à disposition révèlent vraiment des politiques fiscales qui n'ont pas su se positionner clairement ces derniers temps ? Est-ce que c'est ça que ça révèle aussi ?
Je crois qu'il faut relativiser déjà ces chiffres. On parle de 3700 personnes sur une population de 65 millions de personnes. Si on regarde ça par rapport à l'accroissement naturel de la population chaque année, c'est 300 000 personnes que la France gagne chaque année grâce à son solde naturel, les naissances par rapport aux décès, puis par rapport à l'immigration. Donc, globalement, 3700 personnes, je dirais qu'on est quand même dans l'épaisseur du trait. Il ne faut pas exagérer, surtout dans une économie mondialisée, dans la zone euro où on a la même monnaie, où c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de voyager, mais également de s'expatrier. Comme cela a été dit, c'est vrai que certains pays aujourd'hui ont des politiques d'accueil, on va dire des retraités pour le Portugal, et on y reviendra. Donc ça fait partie, on va dire, du mouvement général et du principe même de la mondialisation. Alors c'est vrai qu'il y a des événements qui peuvent conduire à des augmentations, à des pics. C'est vrai que depuis 2011, on a eu une pression fiscale un peu plus importante que la moyenne de nos pays, des autres pays européens. Et puis, ce qui compte, c'est pas forcément la pression fiscale, c'est le ressenti fiscal. C'est un peu comme pour la météo. Et là, c'est vrai que certaines catégories de la population, professions libérales, les indépendants, voire même les jeunes qui disent en fait qu'ils vont travailler pour payer les retraites des autres, ont eu le sentiment que globalement, l'herbe n'était pas très verte en France et qu'il fallait aller voir ailleurs si elle était plus verte. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a eu cet accroissement. Mais si on regarde les chiffres, 3700, c'est pas énorme. Et puis d'autre part, l'herbe n'est pas forcément toujours plus grasse à l'extérieur des frontières. Mais ça, peut-être qu'on y reviendra.
Oui, on y reviendra effectivement. Mais vous dites qu'il faut relativiser. 3744 contribuables, effectivement, ce n'est pas un chiffre excessif. Mais ça concerne des contribuables dont le revenu de référence dépasse les 100 000 euros. On parle de manque à gagner. Est-ce que ça aussi, il faut relativiser cette notion de manque à gagner pour l'État français aujourd'hui ?
C'est vrai qu'il y a un manque à gagner, hein, qui est le montant des impôts, des prélèvements qui ne sont pas évidemment réalisés sur cette population. Il y a le fait que c'est une population, c'est vrai, on va dire, de cadres dirigeants ou de jeunes, et que globalement, c'est de la création de richesses en moins. Alors à combien on peut l'évaluer ? C'est très difficile. On peut penser que c'est aux alentours de 70 millions peut-être qui manquent du fait de ces 3700 départs. Et d'ailleurs, pour préciser, c'est que les 3700 départs, on ne sait pas réellement s'il n'y en a pas eu plus, parce que c'est vrai que ceux qui ne sont pas imposables, les jeunes en particulier, ne sont peut-être pas intégrés dans ces statistiques qui sont très récentes, et c'est vrai que Bercy les communique de manière, on va dire, de manière très très succincte et de manière très récente. Donc c'est vrai qu'on a un certain halo, tant au niveau du nombre de départs qu'au niveau du manque à gagner, sachant qu'il faut également prendre en compte le fait qu'il y a des étrangers qui arrivent en France, qui investissent en France et qui vont créer des richesses en France, et qu'il faut prendre le solde entre les départs et les entrées pour avoir une vision comptable complète et pas forcément s'arrêter aux chiffres bruts.
Justement, vous attardiez sur le fait qu'on ne connaisse pas, qu'on n'ait pas vraiment facilement accès à ces chiffres et qu'on n'ait pas encore assez de recul sur ces chiffres même. Vous-même, Manon Laporte, au début de votre livre, Les exilés fiscaux, vous attardez sur ce point, ce premier obstacle à votre enquête, l'absence de chiffres officiels sur le phénomène, que ce soit du côté d'instituts officiels, statistiques, l'INSEE, ou du côté de la Direction générale des finances publiques. Et certaines de vos sources politiques vous confient que personne n'a intérêt à connaître la vérité sur l'exil fiscal, que les pouvoirs publics souhaiteraient par là minimiser ce phénomène. Est-ce que aujourd'hui la révélation de ces chiffres peuvent alerter les pouvoirs publics sur un vrai suivi de cette évolution, à votre avis ?
Alors d'abord, sur le chiffre de 3700 personnes, je ne sais pas si on compte les personnes qui sont exonérées de l'ISF parce que leurs biens professionnels sont exonérés, leurs outils professionnels, parce que toutes les œuvres d'art sont exonérées. Ça, c'est une zone de non-droit, hein, tout à fait de taux d'absence d'imposition. Et puis, on ne prend pas en compte, vous savez, dans les consulats, on n'a pas l'obligation de s'inscrire. Donc, si vous voulez, quand on va en Belgique ou à Londres, on s'aperçoit qu'il y a les lycées français, où il y a des attentes. Moi, il y a des clients qui m'ont dit on est sur liste d'attente pour les enfants. Alors, je ne suis pas sûre que le chiffre de 3700 personnes soit tout à fait exact. Et je pense qu'on est très loin de la réalité, même si je suis d'accord avec l'économiste.
Monsieur Crevel,
effectivement, on ne va pas empirer cet aspect. Il n'empêche que les jeunes, ils pensent quand même à partir dès la fin de leurs études. Alors, pas que pour des raisons fiscales, pour des raisons aussi de chômage, d'emploi, de diplôme, de cadre de vie. Et Dieu sait. Et heureusement qu'ils s'en vont un peu voir, travailler un peu ailleurs. Mais il faut quand même se poser la question parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui partent, qui suivent leur entreprise, qui s'en vont. Et puis malheureusement, il y a beaucoup d'avocats. Moi, je pense à les avocats que j'ai rencontrés. Ils n'hésitent pas à partir, à faire du conseil ailleurs, alors qu'en fait, ils ont réalisé toutes leurs études ici, y compris des doctorants, enfin des gens qui ont eu leur thèse avec moi et qui m'ont dit, mais attendez, avec les charges sociales, avec l'impôt sur les plus-values, avec l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, en fait, l'imposition sur le capital qui est devenue beaucoup trop lourde. Alors que, par exemple, en Belgique, il y a une exonération sur les plus-values et l'imposition sur le capital est bien moindre. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il faut harmoniser tout ça. Alors, ce sera peut-être dans les solutions qu'on évoquera plus tard. Mais je pense qu'il y a de la concurrence fiscale et on n'est pas obligé de payer excessivement l'impôt. Et puis, je ne parle que de l'impôt, pardon, mais outre l'instabilité, ce dont je parlais, et vous avez cette administration qui n'est pas très ouverte. Moi, j'aimerais une administration qui conseille plus, comme en Belgique, qui soit plus proche des citoyens, bien que l'administration fiscale ait fait des progrès énormes.
Sur les propositions à faire pour améliorer cet environnement fiscal et économique, on va y venir. Hélène Conway-Mouret, vous, sur ces chiffres dont on connaît peu la teneur, est-ce que l'exil des forces vives dont vous avez parlé dans ce rapport, dans le rapport rapporté par Yann Gallu, par exemple, est-ce qu'il y a des chiffres saisissables d'exilés fiscaux? Est-ce que tous les exilés dont vous parlez sont majoritairement des exilés fiscaux?
Alors, d'abord, moi, j'aimerais pouvoir revenir sur le vocabulaire qui est utilisé. Il y a une certaine surenchère sémantique, et je comprends bien que les médias ont besoin d'attirer l'attention, et donc on a malheureusement, avec certains titres, dont celui nous venons de parler, l'augmentation de 46% des exilés fiscaux, et puis on se rend compte, en effet, que derrière cela, 46% correspondent à plus un millier de personnes, par rapport à 2013, entre 2012 et 2013.
Donc il faut relativiser ces chiffres.
Mais bien sûr, les chiffres que nous avons de Bercy, c'est 714 foyers fiscaux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune, qui sont partis, qui ont quitté la France. En même temps, on a 18 000 foyers fiscaux supplémentaires qui sont assujettis à l'ISF. Donc je crois qu'il faut relativiser tout cela, il faut arrêter de se faire peur, aussi, et d'utiliser des termes qui, en fait, sont excessifs. Parce que un exilé, pour moi, qui suis sénatrice mais aussi linguiste de formation, c'est quelqu'un qui a été expulsé de son pays, c'est quelqu'un qui a été forcé de fuir pour aller s'installer à l'étranger. Or, aujourd'hui, nous voyons des Français qui, en toute liberté, parce qu'ils ont la possibilité de voyager où ils le veulent, et ils le peuvent de plus en plus parce que les transports sont facilités, parce que les moyens de communication font que on peut se retrouver à l'autre bout du monde et rester connecté avec sa famille. Donc il n'y a plus la distance imposée. Ce sont des gens qui font volontairement le choix de partir à l'étranger pour découvrir le monde, pour étudier, pour travailler. Il y a autant d'histoires, parce que ce sont des décisions personnelles qui sont prises, qu'il y a de Français qui partent. Alors, l'exil fiscal, pour moi, en effet, je dirais qu'il y a peut-être une expatriation fiscale parce qu'il y a une fiscalité plus favorable dans un certain nombre de pays, c'est vrai. En même temps, on voit qu'il y a eu un changement parce que les paradis fiscaux forcément attirent certaines personnes qui vont placer leur argent dans ces pays-là, et que finalement, quand le secret bancaire disparaît, quand on a l'échange automatique de données bancaires, eh bien on voit que les Français qui ont placé leur argent, et là aussi je voudrais revenir sur le terme d'exilé, parce que il ne faut pas mélanger l'exil et la fraude fiscale. La fraude fiscale se pratique à partir de la France, où on sait
comme
aujourd'hui qu'il y a
33
000 foyers fiscaux qui ont décidé de régulariser leur situation vis-à-vis du fisc. Ce sont des gens qui habitent en France. On sait que les dépôts qu'ils ont faits, et 90% d'entre eux,
les expatriés fiscaux
sont
eux dans la légalité, oui.
Oui, sont en Suisse. Leurs comptes vont de 73 euros, je crois, pour le premier, donc c'est certainement un oubli, jusqu'à 117 millions d'euros. Là, ce n'est pas un oubli de déclarer une telle somme au fisc. Donc, la fraude fiscale, en effet, est trop répandue. Des mesures ont été mises en place par Bercy depuis un an. On a vu une rentrée de 2 milliards d'euros en France et c'est très heureux. on estime à 3 milliards ce qui rentrera dans l'année qui vient. Et donc, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, il faut être précis. Je n'ai jamais utilisé moi-même des termes aussi forts que les exilés fiscaux ou le départ des forces vives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là aussi, je crois qu'il faut relativiser et les chiffres sont importants. Il ne faut pas trop en abuser parce que ça devient ennuyeux.
Alors oui, et depuis le départ, c'est clair qu'on
quand
ne parle
même,
pas
je voudrais vous en donner, je voudrais vous donner simplement un chiffre parce que ça a été mentionné tout à l'heure. La France est le 4e bénéficiaire net après les États-Unis, le Canada et l'Australie en ce que l'on appelle la mobilité des profils hautement qualifiés. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes hautement qualifiées qui viennent s'installer en France et donc qui ont des hauts revenus qui sont souvent payés par leur société étrangère qu'il n'y a de Français qui partent. Donc aujourd'hui, il faut se dire que nous vivons dans un pays moderne qui est inscrit dans la mondialisation, que les Français comme les autres sont mobiles, qu'ils partent à l'étranger et que en retour, nous avons des étrangers qui viennent en France et il faut s'en satisfaire.
Manon Lapin, tu voyais tiquer à l'affirmation d'Hélène Conway-Mouret selon laquelle la France recevait plus de personnel de personnes hautement qualifiées qu'elle n'en voyait partir.
Oui, parce que j'ai l'exemple très concret de quelqu'un qui est parti à Lausanne, donc une vieille génération, pour ne pas le citer, c'était Aznavour, qui est parti en Suisse pour des raisons alors là, purement fiscales, et son fils est resté, et il est chercheur scientifique, et il est resté à Lausanne parce qu'il ne voulait pas du tout rester en France. Donc il y a aussi des gens très qualifiés qui sont partis de France et qui résident à l'étranger. Oui. Là, il ne s'agit pas du tout de fraude ou autre, il s'agit de gens très compétents, très qualifiés, qui partent également.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais en effet, nous avons des Français qui partent, mais il y a régulièrement, et je pense qu'il y a une arrière-pensée politique derrière cela, où c'est quand même une partie de la société française qui, chaque année, demande une commission d'enquête sur les forces vives qui fuient le pays. À chaque fois, on parle de fuite, d'exil, enfin de vocabulaire très très fort. Et moi, ce que je souhaite dire, c'est qu'il faut rétablir la vérité et se dire que, en effet, nous avons des chercheurs français, et j'en rencontre régulièrement dans mes déplacements à l'étranger, qui ont décidé de partir à l'étranger, de s'installer pendant quelques années, mais nous avons en retour un grand nombre de chercheurs étrangers, c'est 30% du CNRS aujourd'hui, qui viennent s'installer en France parce que nous avons un pays avec des infrastructures qui sont formidables et un pays attrayant. Alors je crois que là aussi nous avons des Français qui partent, et quand on interroge cela, et je l'ai fait dans le cadre de mon rapport sur le retour, on voit bien que au bout d'un certain nombre d'années, ils se disent que, in fine, à la fin de l'année, même avec des revenus parfois 3 ou 4 fois plus élevés que ceux qu'ils toucheraient en France, et je pense là aux chercheurs, eh bien, ils n'ont pas plus d'argent en poche, parce que quand ils ont payé la scolarité des enfants, le loyer, l'assurance maladie, des frais qu'ils n'auraient pas forcément en France, eh bien, ils n'ont pas des revenus très conséquents.
Manon Laporte, tout à l'heure, disait que, selon elle, déjà, les chiffres que l'on connaît ne reflétaient sans doute pas la réalité des expatriés ou des exilés fiscaux, ce sera selon le terme qu'on choisira d'employer ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de cela ?
C'est vrai, parce que malheureusement, nous n'avons pas d'outils très précis. Vous savez, la France n'est pas un pays d'émigration.
Donc il y en a sans doute plus.
La France n'est pas un pays d'émigration. Il n'y a jamais eu de vague migratoire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a des difficultés à appréhender ce que certains pays appellent leur diaspora, qu'ils savent activer. Je pense à l'Irlande, où j'ai vécu une grande partie de ma vie. En 2008, ce pays connaît une crise économique, financière, une bulle immobilière qui éclate tout en même temps. Et ce pays, en quelques années, s'est relevé. Il s'est relevé grâce à sa diaspora. Alors c'est vrai que les Irlandais sont beaucoup plus nombreux, ils sont 10 fois plus nombreux à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays qui savent se reposer sur leur diaspora, qui connaissent la capacité de celle-ci dans l'influence qu'elle peut avoir et l'utilisent comme une force. Alors qu'en France, nous avons ce paradoxe où l'État français investit beaucoup. Nous avons en effet, comme cela a été mentionné, des établissements scolaires. Nous en avons près de 500 à l'étranger, des instituts français, des alliances françaises, un des plus beaux réseaux diplomatiques dans le monde après les États-Unis. Donc il y a ce lien avec la France, on s'occupe de ces Français, on leur dit, on leur rappelle sans cesse qu'ils sont bien Français à l'étranger. Et puis en même temps, quand ils rentrent, quand ils ont envie de rentrer, eh bien, on leur signale que quelque part, ils ne sont plus français parce qu'ils ont osé partir. Donc, on leur reproche le fait d'être partis. Et donc, on ne sait pas utiliser cette force.
À cette problématique du retour. Mais pour le moment, alors, ces nouvelles données dont nous disposons depuis peu de temps nous donnent aussi une idée du profil type de l'exilé fiscal qui n'est pas forcément, donc, comme je le disais en début d'émission, le rentier ou la star du showbiz. Dans votre livre, Manon Laporte, vous observez un rajeunissement de l'exilé type, de plus en plus de ménages actifs. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire écouter Lofty Bellassine, qui à force de s'exprimer dans les médias depuis des années à ce sujet, s'est improvisé un peu comme une sorte de porte-parole des exilés fiscaux. C'est l'ancien PDG d'Air Liberté qui s'est exilé en Belgique il y a presque 20 ans maintenant. C'est un extrait du journal télévisé de France 2 le 24 avril 2000.
Il a fait fortune en France en créant le club Aquarius. Aujourd'hui, il vit à Bruxelles. Lotfi Bellassine s'y est installé il y a 3 ans après avoir vendu Air Liberté.
Un gros avantage de Bruxelles par rapport à Paris, c'est que il n'y a pas d'embouteillage.
Il a choisi la Belgique pour réaliser un projet européen, une chaîne de télévision et un site internet spécialisé dans la vente de voyages. Heureuse coïncidence fiscale, ici il n'y a pas d'impôt sur la fortune.
Je trouve que ce qui n'est pas moral, c'est de confisquer aux gens ce qu'ils ont gagné. 95% d'impôt sur le revenu, du fait de la combinaison de l'impôt sur le revenu et l'ISF, c'est excessif et ça fait partir des gens qui sont tout à fait attachés à la France, comme moi.
À 1h30 de Paris, sa situation s'est nettement améliorée. Ici, l'impôt est plafonné à 54% du revenu. Le patron est de gauche, mais pas masochiste.
Je crois que d'être de gauche, c'est d'abord vouloir être efficace et vouloir être solidaire. La solidarité, ça consiste pas à faire fuir les gens qui pourraient payer. La solidarité n'est pas punitive, elle doit être intelligente.
C'était une archive sélectionnée par Fanny Richet. Donc la Belgique comme refuge des exilés fiscaux, c'est toujours d'actualité 15 ans après ce reportage que nous venons d'écouter. Il n'y a pas d'ISF en Belgique, pas de taxation sur les plus-values réalisées sur les actions ou sur la cession de biens immobiliers. Mais ça reste quand même un pays avec le taux d'imposition un des plus élevés d'Europe en tout cas. Sur quel point la France peut aligner sa politique fiscale sur celle de la Belgique pour essayer de retenir ou de faire revenir ces exilés fiscaux en Belgique,
Madame Laporte. Vous parliez de plus-value. Moi, je pense que l'une des idées qu'on pourrait faire valoir, c'est harmoniser les taux de plus-value. C'est-à-dire qu'en Belgique, on est totalement exonéré. En France, on est à 34,5%. Je pense que dans un cas, c'est trop, l'autre, il n'y a rien. Il faudrait avoir un 20% ou 15% de taxation moyenne sur l'Union européenne.
Philippe Crevel, sur cette question, harmoniser les taux de plus-value, c'est une solution qui vous semble envisageable ?
C'est évident qu'aujourd'hui, les différences de taxation sur le patrimoine entre les différents pays européens, évidemment, les contribuables les plus aisés essaient d'en jouer et d'optimiser leur situation. Et d'ailleurs, on ne peut pas leur reprocher. On est dans un principe de libre circulation des personnes, du capital et des biens au niveau de la zone euro, donc il est logique que les uns et les autres, en toute légalité, essaient d'optimiser leur situation fiscale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains pays ne taxent pas tout ce qui est mutation capitalistique, et qu'il serait bon peut-être d'accroître dans certains pays, comme les Pays-Bas ou la Belgique, ce type de taxation. En France, on a plutôt une tendance à taxer à la fois les revenus et à la fois la transmission du patrimoine, avec en plus l'ISF qui est maintenu. Donc c'est vrai qu'en France, on a un certain décalage. D'ailleurs, il y a eu un rapport très intéressant du Conseil des impôts qui indiquait clairement que la France était plutôt un pays qui taxait fortement le capital, contrairement à ce que l'on pensait depuis de nombreuses années, où on disait que la France était un pays relativement laxiste sur le capital et qu'il fallait taxer le capital comme le travail. Aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où, c'est vrai, on taxe très fortement le capital, ce qui incite les expatriations fiscales au-delà des frontières en Belgique, voire dans des pays un peu plus lointains, en Asie, Singapour en particulier, qui est également un pays d'accueil en la matière. Mais c'est vrai qu'au niveau de la fiscalité, il faut quand même voir qu'au-delà des problèmes, on va dire, du capital qui se posent réellement, et c'est vrai qu'il faudrait un cadre européen, en revenant sur la taxation des revenus, contrairement à ce que disait l'ancien PDG d'Air Liberté, la France n'est pas un pays où on surtaxe les revenus l'impôt sur le revenu en France est faible et on a un taux moyen d'imposition en France qui tourne autour de 20-25%, même pour des contribuables très aisés qui utilisent évidemment tout ce qui est niche fiscale et optimisation fiscale. Alors que dans certains pays, comme au Royaume-Uni, on peut avoir des taux moyens d'imposition très nettement supérieurs à ce que l'on constate en France. Et en particulier, il n'y a pas tout ce qui est quotient familial, quotient conjugal. Et donc, on arrive à des taux d'imposition réels beaucoup plus élevés.
Hélène Conway-Mouret, vous vouliez réagir à ce que disait Philippe Crevel.
Oui, tout simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec la proposition d'harmonisation au niveau européen. Je crois que le président de la République, d'ailleurs, récemment annoncer qu'il aimerait voir naître un gouvernement économique au niveau de l'Europe. Je crois qu'on a besoin de cette harmonisation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a en effet un appel d'air. Parfois, d'ailleurs, avec des informations qui sont fausses. En effet, on pense que la Belgique est un paradis fiscal. Et en effet, il est peut-être pour ceux qui vivent de leur capital, mais pas certainement pas ceux qui vivent de leur travail, parce que ils se rendent compte, ces Français qui partent, et ce sont des Français, pas des exilés, hein, ce sont des Français qui ne sont pas expulsés de la France, ce sont des Français qui choisissent de partir à l'étranger. Quand ils vont travailler en Belgique, ils se rendent compte, comme dans un grand nombre d'autres pays, que la France n'est pas l'enfer fiscal que certains médias veulent bien décrire. Et je crois qu'il faut faire attention à ce French bashing, parce que les Français sont les premiers à le mettre en place. Et c'est souvent les étrangers, finalement, qui parlent de notre pays de façon le plus positive. Donc, il faut faire attention à cela. Je crois que ce qui est proposé, en effet, est souhaitable. Pour nous, mais pour l'ensemble des Européens. Nous avons un bel espace aujourd'hui où nous pouvons en effet étudier, travailler sans frontières, sans visa, avec une monnaie unique, des avantages exceptionnels. Et je crois qu'il faut aller jusqu'à cette étape-là économique et fiscale.
Manon Laporte.
Je suis totalement pour l'intégration fiscale européenne, hein, là, je l'ai souvent dit. En revanche, vous dites que c'est pas un pays qui est forcément taxé. Alors évidemment, on n'est pas à 95%, comme dit M. Bellassine. Mais cela étant, vous avez un impôt sur le revenu avec des contributions sociales extrêmement importantes, qui sont extrêmement lourdes. Et d'ailleurs, les retraités, c'est un petit exemple, hein, ont vu un taux de CSG passer de 3 à 8. De contribution sociale solidarité, donc passer de 3 à 8 à plus de 6%, ce qui est énorme. Hein. C'est pour ça que les retraités aussi commencent à partir. Et donc, je pense que l'accumulation des taxes, et pas que l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune s'ils sont assujettis, vous avez les droits de succession, vous avez les taxes locales qui sont extrêmement importantes, donc tout ça fait qu'à un moment donné, vous êtes surtaxé. Et l'ISF, en plus des droits d'enregistrement, en plus des droits de succession ou de donation...
Donc en France. Hein.
Si vous voulez, on est en France. Hein, y a un cumul de taxation pendant la durée de vie du bien ou des droits sociaux qui est tel que au bout d'un moment, on dit, effectivement, il y en a trop. Et en plus, on ne comprend rien, donc on doit partir.
Philippe Crevel, vous voulez réagir à ce que vient de dire Madame Laporte, pardon. J'ai eu un trou de fil de mémoire.
Oui, parce que on parle souvent des prélèvements obligatoires. Il faut également voir la qualité de service qui est offert en contrepartie des prélèvements. C'est vrai qu'en France, on a un niveau de prélèvement qui est élevé, hein, 44-45% du PIB. Mais un certain nombre de dépenses sont socialisées, en particulier l'éducation, et c'est vrai, ça a été évoqué tout à l'heure. On va au Royaume-Uni, ça va être privé en grande partie. Aux États-Unis, ça l'est quasi complètement. On a également un niveau de couverture sociale relativement forte, et parfois d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut maintenir le niveau? Mais ça, c'est un autre débat. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a un niveau de dépenses sociales extrêmement important, qui fait partie, on va dire, du socle de la société française. Et il faut mettre en parallèle le niveau de prélèvement par rapport justement à la qualité des dépenses sociales et publiques qui sont mises en œuvre, alors que dans certains pays, ça va être des dépenses qui sont incontournables mais qui vont être privatisées. Il faudra avoir des salaires plus importants pour payer les dépenses d'éducation ou pour payer les dépenses de sécurité sociale. Donc il faut faire attention à chaque fois sur le côté dépenses-recettes et, on va dire, le solde de ce qui reste pour chacun d'entre nous.
Alors j'ai une question à vous poser sur cet exit taxe, cette taxe instaurée en 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dont le but est d'alourdir la taxation sur les plus-values immobilières. Ça a été voté lors de la réforme de l'ISF. Mmh. Elle a été créée pour freiner l'exil fiscal vers la Belgique. Et cette taxe devait rapporter près de 200 millions d'euros à l'État français. Ça n'a finalement rapporté que 53 millions d'euros en 2012 et à peine une dizaine de millions de plus en 2013. Est-ce que au moins cette exit tax a ralenti l'exil fiscal vers la Belgique, Manon Laporte?
Cette exit tax, si vous voulez, elle avait pour objectif de retenir les étrangers pour pas qu'ils s'exonèrent finalement de la plus-value. Donc on disait, bon voilà, au moment T, vous voulez partir, mais vos valeurs, vos droits sociaux valent une certaine valeur. Et du coup, il y a une plus-value latente, c'est-à-dire qui n'est pas encore réalisée, qui se dégage. Donc c'était pour empêcher, si vous voulez, les personnes de partir sans payer l'impôt. Si vous voulez, la seule chose, c'est qu'on a créé un outil qui est un outil pour savoir le nombre de personnes qui voulaient partir. Donc, ça a été un outil statistique. Effectivement, ça n'a pas suffisamment rapporté parce que tout simplement, les gens s'exilaient ou partaient ou s'expatriaient, comme on veut, sans vendre définitivement leur part sociale.
Est-ce que ce type de mesure privative fonctionne déjà? Est-ce que c'est une mesure privative? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation? Et est-ce qu'elle fonctionne auprès des candidats à l'exil fiscal, Philippe Crevel? Est-ce qu'elle peut les dissuader?
Je pense qu'il y a deux choses. Bon, évidemment que quelqu'un qui se trouve avec un patrimoine important et qui va essayer de réduire sa charge fiscale va prendre en compte l'ensemble des données. Il va prendre en compte le coût éventuel donc de cette exit tax. Après, si globalement il a décidé et que c'est conseillé, parce que souvent, là, on parle quand même, en règle générale, de patrimoine important, donc de personnes qui sont entourées de conseillers fiscaux, de fiscalistes, eh ben, on va voir la méthode, justement, pour absorber le coût fiscal, hein, et pour essayer d'avoir un gain à la sortie. Donc, je ne pense pas que pour des très gros patrimoines, qui en plus peuvent faire l'objet de successions à terme, on a parlé il y a quelques années ou quelques mois de Arnaud, hein, et de, évidemment, la transmission de LVMH, etc. Donc là, on est sur des montages, évidemment, juridiques et fiscaux extrêmement compliqués. Et là, l'exit tax ne va pas jouer un rôle très important. Ça peut jouer à la marge pour des dirigeants de PME qui vont peser le pour et le contre. Mais je pense que, globalement, quand la décision est prise, on franchit le cap. Hein, et ça fait partie des 3700 et quelques dossiers qui ont été constatés en 2013.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
L'exil fiscal est-il une exception française? On essaie de répondre à la question avec la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret et les économistes Manon Laporte et Philippe Crevel. Manon Laporte, vous vouliez rajouter quelque chose à propos de cette question?
Je suis d'accord avec Philippe Crevel qui dit que c'est pas dissuasif. Effectivement, quand on veut partir, on utilise des fondations, on utilise des outils juridiques beaucoup plus sophistiqués pour finalement partir. Et c'est pas d'ailleurs fiscal, c'est pas forcément fiscal. C'est simplement pour éviter que les fortune soit totalement dilapidée ou déstructurée ou soit pas s'en aille des familles. Tout simplement, il n'y a pas qu'un atout fiscal, hein, par exemple, sur la fondation.
D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur les motivations et sur justement le profil dont on avait commencé à parler de ces exilés fiscaux. Dans votre livre, Manon Laporte, vous dites qu'il s'agit de personnes de plus en plus jeunes et aussi de petits entrepreneurs, pas forcément de grands directeurs d'entreprise comme on aurait tendance à l'imaginer. Vous qui les avez rencontrés dans le cadre de votre enquête, qu'est-ce qu'ils recherchent en fuyant la France? Est-ce que ce ne sont que des motivations purement fiscales?
Alors ce que je disais dans mon livre, c'est que ce n'est rarement que pour des raisons fiscales qu'ils partent. Il y a un certain nombre d'indices, de facteurs, et effectivement, le dernier, c'est
y compris
socioculturel, et c'est mis bout à bout que finalement, on va décider de partir. Et la fiscalité fait partie de ces critères. Alors, on peut partir parce qu'on n'a pas de travail, parce que effectivement la fiscalité est lourde, parce qu'on veut découvrir le monde, mais parce que il y a une complexité administrative, il y a un manque de débouchés. Tout ça réuni fait qu'à un moment donné, des jeunes lycéens qui ont passé leur bac vont faire leurs études ailleurs, ou des jeunes dirigeants vont préférer partir, ou des jeunes vont aller rejoindre leur famille déjà exilée, comme ça s'est passé en Belgique, avec un patron d'une revue de presse, d'un groupe de presse. Donc, si vous voulez, c'est mis bout à bout un ensemble de multi-critères qui font que les gens vont partir au bout d'un moment, ils vont dire « stop ». Et effectivement, en 2012, par exemple, vous avez eu une hausse très importante quand même des impôts, des contributions sociales, de la surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur le revenu, de l'ISF, qui ont fait que ça a pu être un facteur, y compris avec la suppression du bouclier fiscal, mais tous ces impôts réunis et cette augmentation de taux et d'impôts font que les gens, à un moment donné, ils se sont dit « on part ».
Alors, vous avez tous l'air à peu près d'accord depuis le début de cette émission sur le fait que c'est une responsabilité européenne que de mettre en place une politique fiscale plus juste, peut-être moins dissuasive, d'homogénéiser en tout cas les politiques fiscales. Vous vous dites, Manon Laporte, vous vous prononcez pour un impôt unique sur le patrimoine dans un cadre européen. Philippe Crevel, est-ce que cette option vous paraît envisageable à vous ?
Je pense que le cadre européen, c'est très important, mais je pense également qu'il y a une question de stabilité. Ça, c'est évidemment un débat récurrent, et c'est l'instabilité fiscale qui, évidemment, crée de la perturbation et qui peut inciter à un moment donné telle ou telle personne à franchir le cap, parce que son ressenti, ce que je disais tout à l'heure, ce sera de dire de toute façon, ça va aller de mal en pis, et que globalement, il faut que je parte maintenant avant de tout perdre. Et ça, c'est vrai qu'en France, on a une petite habitude, c'est que les règles fiscales changent de manière permanente. Et on l'a vu sur les plus-values, le régime des plus-values, quasiment chaque année, il y a des modifications, des allers-retours. Et on l'a vu également sur l'impôt sur les fortunes, on l'a vu sur les droits de succession, les droits donc en matière de donation. Et c'est vrai que cela a un effet, on va dire, perturbateur important, et que je dois avouer que c'est certainement ce qui contribue le plus à alimenter le départ de la France. Après, le rêve européen, on l'a tous autour de cette table, je crois. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, pour porter ce rêve, il faut qu'il y ait plusieurs pays qui soient d'accord. Et on voit bien qu'il y a une compétition fiscale engagée. On a parlé de l'Irlande tout à l'heure. On peut voir le Portugal pour les retraités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à avancer vers un cadre européen en matière de fiscalité, même si c'est le souhait de François Hollande, comme d'ailleurs de l'ancien président de la République.
Et quand bien même il n'y aurait pas cette compétitivité, on voit bien qu'il est difficile d'homogénéiser ce genre de politique. Il faudrait, en tout cas à l'échelle de la France, il faudrait peut-être totalement revoir notre politique fiscale, Manon Laporte ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Déjà, il y a beaucoup d'impôts sur le capital, beaucoup d'impôts sur le patrimoine, et je pense avec une fusion globale, alors ne serait-ce qu'une taxe foncière avec l'ISF, où l'assiette est la même, ou les droits de succession et l'ISF, vous voyez, globaliser un petit peu tout ça, parce que finalement, les Français, et ce n'est pas qu'un ressenti, malheureusement, ils subissent de plein fouet la multiple taxation tout au long de la vie, tout au long de leur vie. Et c'est pas qu'un ressenti.
Hélène Conway-Mouret, sur ce ressenti fiscal.
Oui, c'est vrai, je crois que nous avons besoin d'une grande réforme fiscale.
Qui irait dans quel sens ?
Eh bien, en effet, de simplification, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un ministère dédié à la simplification administrative, et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de ces tracasseries d'une administration qui est trop lourde. En même temps, je crois que malheureusement, c'est le fait d'un grand nombre de pays. Mais bien sûr, on regarde d'abord ce qui se fait chez soi. Et c'est vrai que quand on prend le temps d'aller à l'étranger, on se rend compte que finalement, les services publics français sont excellents. Ce qui attire d'ailleurs les investisseurs étrangers, et qui sont le fruit d'un choix politique qui est fait, en effet, de charges sociales qui font qu'aujourd'hui, tout Français peut aspirer à se faire soigner, d'avoir des soins médicaux et dentaires, ce qui n'est pas le cas dans un grand nombre de pays, à moins de pouvoir contracter une assurance privée très onéreuse. Donc ce sont des choix politiques au niveau de l'État qui ont été réalisées. Je ne pense pas que ce soit cela qu'il faille remettre en cause, mais le fait d'avoir une grande réforme fiscale, telle que cela avait été proposé dans les propositions de François Hollande, en tout cas dans son programme de campagne, je crois que c'est une nécessité absolue. Et puis bien sûr, la deuxième étape, de travailler aussi à cette harmonisation fiscale au niveau européen. C'est très difficile en période de crise parce que chaque pays essaye de faire le maximum pour attirer de l'argent. On voit bien que, en effet, les Portugais ont mis en place récemment tout un tas de mesures fiscales pour attirer les retraités français qui,
oui, voilà,
traditionnellement, allaient plutôt en Afrique du Nord pour le climat, pour une qualité de vie meilleure, parce qu'avec une retraite modeste, forcément, ils vivent beaucoup mieux, que ce soit d'ailleurs en Afrique du Nord, en Thaïlande, et maintenant au Portugal, qui est plus près avec l'euro à utiliser, et puis le fait de pouvoir rentrer en France. Là aussi, le service de santé bénéficie à ces retraités qui reviennent régulièrement et qui peuvent bénéficier de la qualité de celui-ci.
Alors, en attendant la mise en place de ce régime, de cette politique fiscale à l'échelle européenne, on peut déjà peut-être parler de la question du retour, justement. Comment faire revenir les exilés fiscaux français, comment préparer leur retour. Manon Laporte, vous en parlez à la fin de votre livre. Ça, c'est une question qui doit être priorisée dans les politiques fiscales
Oui, c'est
actuelles.
Essentiel. Alors, je ne parle pas de régularisation de capitaux qui n'ont pas été déclarés, hein, comme l'évoquait Madame la sénatrice. Je parlais de retour d'exilés, parce que je parle quand même d'exil, et qui veulent revenir en France. Moi, dans ma petite enquête, j'en ai pas vu un seul qui voulait revenir. Si, pardon, un seul. Celui, un cadre dirigeant qui est parti à Singapour et qui, finalement, Singapour, ça lui était insupportable. Et je crois que vous en parlez, hein, dans votre rapport, et qui revient, bon, parce qu'il a plus pour des questions familiales. Mais c'est vrai que ça doit être... c'est essentiel. Moi, j'ai vu trop de jeunes qui ne voulaient pas rester et qui ne revenaient pas, malheureusement. J'ai vu des retraités, j'ai vu des professions libérales, j'ai vu des petits commerçants qui pensaient à partir. Il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Donc, je pense qu'il faut stabiliser le système fiscal, faire une norme qui... au mieux doit rester, ou moins, au pire doit rester 5 ans, ne pas changer en permanence, de bouleverser les mesures qu'on a prises fiscales quand on a acheté un bien, que ce soit un bien mobilier ou un bien immobilier. Et puis, la réforme fiscale, elle est essentielle. Vous parliez de François Hollande, mais son programme prévoyait une fusion de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Or, à mon avis, le système fiscal, ce n'est pas ça uniquement. C'est aussi l'impôt sur le patrimoine et l'impôt sur le capital dont il faut réformer. Donc l'instabilité, le coût fiscal, c'est-à-dire l'impôt lui-même, et puis la sécurité et la non-rétroactivité, ça c'est essentiel, des normes fiscales.
Philippe Crevel, vous vouliez réagir en une minute si possible.
Oui, très rapidement. Je dirais que sur les différents départs, il y a, dans les départs de commodité des seniors, on voit également des retours du fait que, à un moment donné, après 80 ans, l'idée de se faire soigner en France et d'être entouré par les siens, donc à un âge relativement avancé, on voit quand même des retours se faire. C'est vrai que c'est différent par rapport à des gens qui ont entre 55 et 60 ans, là, qui sont dans un objectif patrimonial et qui vont partir pour longue durée. Donc là, il faut distinguer. Et puis les jeunes, là, les allers-retours entre France et l'étranger, voire entre plusieurs pays étrangers, se multiplient. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est plutôt, on va dire, de l'expérience qui est prise. Parfois, la France va perdre en aide parce qu'il n'y a pas de voir de retour du tout de ces jeunes. Mais de temps en temps, et quand même plus fréquemment qu'on ne le pense, en particulier de la part de ceux qui sont à Londres, il y a quand même retour en France pour s'installer, pour construire une vie, on va dire, familiale.
Donc, il va falloir relativiser donc cette question des départs, et vous avez bien fait de conclure sur les retours. Merci beaucoup, Philippe Crevel, économiste, Manon Laporte, avocate fiscaliste, et vous, Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste des Français basée à l'étranger. Merci à vous d'avoir tenté de répondre à cette question. L'exil fiscal, une exception française. Vous pouvez réécouter cette émission et même la podcaster sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Demain, une toute autre question. La Grèce est-elle condamnée à s'endetter? Toujours des questions d'argent. Bonne soirée à tous et à demain.
C'est l'été sur France Culture. France Culture présente la 43e édition du Festival international du film de La Rochelle.
Rendez-vous incontournable des amoureux du cinéma, rétrospective Louis Feuillade et Musidora, hommage à Olivier Assayas, à Marco Bellocchio, Oussia Ossienne, films inédits et en avant-première, Nuit de John Carpenter, 250 films du monde entier. Le Festival international du film de La Rochelle jusqu'au 5 juillet. Un partenariat France Culture. Elle voulait tout de la vie, tout voir, tout comprendre, tout écrire. Sur France Culture, une grande traversée aux côtés de Simone de Beauvoir.
Il s'agissait donc non pas de découvrir des horizons absolument inconnus et extraordinaires, mais simplement de faire une espèce de mise au point, tout ce fatras d'opinions qui sont répandues sur les femmes, et d'essayer de dégager à travers tout cela ce qui, à mes yeux, est la vérité.
Une Beauvoir a plusieurs voix dans ses carnets, ses lettres, ses rêveries romanesques, sa rigueur philosophique, sa vérité autobiographique. De la jeune fille rangée à la femme indépendante, une Beauvoir, libre. Simone de Beauvoir, absolument, par Christine Le Cerf, du 17 au 21 août à 9h10, en partenariat avec l'Obs.
Et il est 19h sur France Culture, tout de suite, une contre-histoire de la philosophie.